Salut à vous, c'est Fanny. Bienvenue dans cette première partie, ce premier audio qui va tenter d'aller à la rencontre le plus profondément possible de ce qu'est le joyau du cœur, le joyau de l'affection et de la sécurité intérieure. Alors, comme je l'écrivais un petit peu plus haut dans l'introduction de cette page, le joyau du cœur, c'est bien entendu l'amour inconditionnel, c'est évident. Mais avant même de voir ce qu'est l'amour inconditionnel, qu'est-ce que l'amour finalement pour commencer? On l'a tellement vu, est-ce qu'on a encore un petit peu une petite idée de ce que ça représente de manière un petit peu plus objective? Alors, de mon point de vue, l'amour, c'est comme une colle énergétique. C'est ce qui relie deux choses ensemble, que ce soit deux êtres ou deux molécules, deux atomes par exemple. On peut le voir, l'amour, comme un pont de reliance. Ou comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, comme la table du dolmen. Donc cette pierre qui va relier une autre pierre à droite et une autre pierre à gauche. Donc qui va faire la reliance, le pont entre les deux énergies, droite et gauche. L'amour va avoir donc de nombreuses symboliques qui vont aller dans ce sens-là, dans le sens de la reliance. Déjà, si on repart du symbole du dolmen dont je viens juste de parler, on a bien cette pierre qui relie et donc qui va transformer deux choses séparées, la pierre de gauche d'un côté et la pierre de droite d'un côté. En mettant la table du dessus, on obtient une unité. Donc on a le 2 qui va devenir 1. Mais pour que cela soit possible, il faut ce troisième élément-là qui relie. Et pour moi, c'est ça l'amour. Donc l'amour peut être vu à la fois comme l'unité, ou cette troisième qui rassemble, donc à la fois le 1 et le 3 aussi. Et là, on commence un petit peu à accéder à la fameuse trinité dont nous parlent plusieurs religions. Et d'ailleurs, le mot religion, hein, religion, vient du latin religere, qui signifie relier. Et ce verbe relier, j'ai déjà utilisé au moins 5-6 fois, peut-être depuis le début de l'audio, en lui substituant parfois des synonymes comme assembler, rassembler, etc. C'est-à-dire que, à quel point en fait l'amour, c'est cela, c'est la reliance en fait. Dans un couple, c'est la reliance. Mais retournons à la religion parce que à la base, on a cette idée de relier, donc le fait de se relier ben, à quoi? En fait, au monde invisible, aux forces divines. Dans les traditions un petit peu plus tantriques, pardon, de l'Inde, entrer en reliance avec un dieu, c'est entrer en amour pour le dieu. Et le dieu devient le bien-aimé. Nous avons un petit peu aussi cette idée-là hein, dans nos propres traditions, où les nonnes deviennent les fiancées de Jésus lorsqu'elles entrent dans l'ordre. Elles portent même l'anneau à l'annulaire, hein, comme les époux le font entre personnes mariées. Donc on a bien cette idée-là où Jésus devient le bien-aimé de la personne. Donc oui, voilà, relier pour moi, ce serait surtout ça, l'amour. Lier, faire du lien entre deux choses ou deux êtres et parfois même entre deux polarités tout à fait opposées. C'est ça aussi la puissance de l'amour, ce lien invisible, cette colle qui ne se voit absolument pas et qui est pourtant si tangible dans ses conséquences. D'où la forme en fait du symbole du dolmen qui rend visible cette troisième présence qui est finalement le lien. Il y a d'autres symboles qui rendent visible l'énergie d'amour et que l'on trouve dans plusieurs mythes. D'abord, on a le fils ou l'enfant. Et ce sont les enfants merveilleux que la mère va porter sur ses genoux et que l'on voit à travers les figures d'Horus, qui est le fils d'Isis et d'Osiris, ou bien entendu chez nous, plutôt Jésus. Parce qu'un enfant, finalement, c'est de l'amour rendu visible entre deux êtres. L'enfant, le troisième, est le fruit de l'amour physique du couple. Mais au-delà, c'est aussi le fruit de leur amour au sens large. Et c'est pourquoi l'enfant intérieur loge dans la zone du cœur, parce qu'il est l'amour rendu visible. Et parfois, c'est tout le problème, hein. Certains fruits de l'amour, hein, comme on va pouvoir les appeler, ne devaient pas en fait être visibles, rendus visibles, parce que du coup, c'est jeter un blâme, une faute, c'est rendre visible la faute. On a aussi le problème inverse, hein, un fruit qui ne vient pas, comme si le divin ne permettait pas de montrer aux yeux de tous la force de l'amour entre deux êtres. Donc on a un petit peu ça dans tout ce qui est type des histoires, des narrations. Une fois que le couple est lié, une fois qu'il a consommé, l'auteur va souvent chercher à consacrer leur amour avec un enfant qui est en fait tout simplement une façon logique, entre guillemets, de montrer le lien invisible. Donc, voilà. Entre ces deux problèmes-là, cet enfant qui rend visible quelque chose qu'on ne voudrait pas rendre visible, ou au contraire, l'absence d'un enfant qui ne permet pas de rendre visible la puissance d'un amour entre deux êtres, on a plutôt un mélange des extrêmes, que ce soit au niveau conscient-inconscient. Ainsi, il est possible qu'une femme qui veut devenir mère, et qui le devient, finit par négliger son enfant, ou même, dans des cas extrêmes, lui faire du mal. Ça paraît absolument contre nature, puisqu'elle avait voulu cet enfant-là, leur rendre visible son amour, et puis finalement, une fois qu'il est là, tout ne se passe pas très bien. Pour notre raison, c'est absolument incompréhensible. La mère, elle est toujours vue sous le potentiel de la mère qui donne tout. Et dans notre société, c'est plutôt l'enfant qui est ingrat. Donc pour nous, c'est totalement encore plus incompréhensible quand c'est une femme qui veut un enfant et qui finit par le négliger. Mais c'est parce qu'on oublie que l'enfant, justement, parfois, rend invisible un lien d'amour et que il suffit que cet amour-là, à un moment donné de l'histoire du couple, soit quelque peu affligé pour que l'être s'en prenne à son symbole, pour que la mère s'en prenne à son enfant qui symbolisait cet amour-là. Voilà, la mère, en fait, c'est celle qui rend visible, parce qu'elle enfante, l'amour, et aussi le péché, forcément, d'amour. Hein. La mère, à partir du moment où elle devient mère, elle devient Ève. Donc, c'est un rôle difficile à porter, hein, tantôt sacralisé quelque part, cette mère absolument divine, rachetée finalement, hein. C'est Marie qui rachète Ève dans notre tradition religieuse, où elle est tantôt démonisée. On a aussi cette Ève qui peut être une Lilith absolument démoniaque, qui tue même les enfants. Donc on a ces extrêmes au niveau de l'enfant. Et l'enfant devient aussi à la fois le symbole d'une énorme fierté, la capacité de savoir enfanter, la capacité aussi que quelqu'un soit tombé amoureux de la mère, donc un symbole de puissance, un symbole de sacré, et aussi, parce que ça peut être hors mariage ou pas avec la personne que les parents espéraient, on a un symbole de honte et de culpabilité. Et bien souvent, comme je vous le disais, finalement, c'est un petit peu un mélange de tout cela, parce que la société nous présente uniquement ces deux faces de la mère parfaite ou la mère totalement démoniaque, il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, on a comme ça ce mélange. Et oui, l'enfant intérieur, par rapport à cet atelier, il a été notre porte d'entrée pour aller explorer cette blessure d'âme. C'est un symbole d'amour, et c'est vraiment l'enfant qui va absorber finalement tous les mots d'amour du couple parental, comme il va absorber aussi les langages d'amour des parents, de façon plus positive, hein. Que ce soit le négatif ou le positif, il va tout emprunter en fait de ses parents. Et donc, les enfants sont, on le sait, avec les divorces, etc., que ce sont les premiers à subir les séparations amoureuse. Autre symbole, qui s'écrit d'ailleurs de façon très très similaire à l'enfant au fils, on a le fil. Donc le fils, le fil. Le fil, c'est ce qui permet aussi de relier, par exemple, deux pièces de tissu ensemble, ou encore de tisser, car pour tisser, il faut deux sortes de fils, hein, les fils de tra- trames verticaux et puis les fils horizontaux qui vont dessiner. Fait intéressant à ce sujet, le sujet du tissage, les prêtresses, mais aussi les grands-mères sages, les sorcières, etc., c'est-à-dire les anciennes femmes hein, qui étaient encore des prêtresses de la déesse en cachette, étaient appelées les tisseuses, parce qu'elles étaient les relieuses du matériel et du spirituel. C'était les unificatrices des deux mondes. Et le mot hérétique, à la base, en fait, c'est un mot qui signifie tisseur ou tisseuse. Et finalement, il y a quelque chose d'assez ironique hein, dans le langage, que ici, dans notre religion prédominante, on a un concept qui cherche à aider l'autre à se relier et qui, d'un autre côté, vous condamnez certains d'hérétiques, donc certains de tisseurs, c'est-à-dire de relieurs. Nous, on veut relier, mais vous êtes des relieurs et on considère que non. Donc, je trouve ça assez paradoxal. Hein. Où l'on peut voir en fait à quel point, à un moment de l'histoire, les religions se sont perdues de leur fondation même, du fait qu'elles étaient là pour relier et pour échanger de l'amour. Autre tradition, toujours autour du fil, et que j'aime beaucoup à ce sujet, c'est la pratique en fait des moines bouddhistes japonais, qui veut que le futur moine relie à la main différentes pièces de tissu pour en faire son manteau, le kesa. C'est le processus du rakutsu. Et cela symbolise tout ce qu'on fait ici, en réalité. C'est-à-dire que voir que notre être a été morcelé au fil de notre vie, puis d'aller reprendre les fragments de nous-mêmes pour les recoller. C'est ce qui est l'intégration, en fait. Souvent, on a plein de thérapies qui fonctionnent vraiment très très bien, dont l'art-thérapie, l'analyse, tout ça. Et en fait, on est dans la fragmentation. On regarde, on divise, on analyse. Et le gros problème, c'est que ces thérapies-là ne passent pas à recoller. Ne montrent pas comment aimer toutes ces parties-là pour que finalement on les relie par notre amour ou tout simplement par l'intégration. Ok. Donc, on a pour les moines déjà cette idée-là d'aller chercher l'intégration, comme on fait en fait ici et notamment dans le chapitre qui va arriver. Les moines suivent ce processus dans une certaine méditation, hein, ça fait sens, hein. Et ces méditations-là les invitent à voir qu'ils recollent leur bout d'âme, un peu comme en chamanisme avec le recouvrement d'âme. C'est rigolo hein, comment on trouve des choses entre les traditions, qu'on peut relier d'ailleurs. Et en restant au Japon, hein, on a aussi la fameuse technique du kintsugi, qui est l'art de réparer avec de la colle dorée les céramiques, et qui donne des objets pleins de cicatrices dorées, qui sont encore plus beaux que l'original et vendus encore plus cher. Parfois même, des vendeurs cassent tout à fait exprès certaines céramiques dans le but de les vendre avec cette technique, parce que ça leur fait prendre de la valeur. Donc là aussi, je suis sûre, vous saurez apprécier toute la dimension symbolique du kintsugi, que l'être réparé est encore plus beau que dans son innocence intacte du départ, qu'il a encore même plus de valeur. C'est chouette, hein. D'ailleurs, l'auteur culte du livre « Femmes qui courent avec les loups », Clarissa Pinkola Estes, hein, appelle les vieilles femmes sages les femmes du clan des cicatrices. Aujourd'hui, bien entendu, les cicatrices sont jugées particulièrement inesthétiques, hein, surtout les vergetures. Hein. Mais nous pouvons les voir aussi comme des fils d'amour et de la colle dorée avec cette certaine fierté. Parce que au niveau de notre peau, finalement, quand elle est coupée, elle est capable de se relier à nouveau. De façon inconsciente, on n'a pas besoin en fait de méditer sur le fait que nos cellules vont ressoudre la peau. C'est une preuve d'amour en soi. La présence de l'amour en soi, dans notre corps même, et dont nous ne prêtons pas toujours assez attention. Et on voit ici que la guérison, c'est de l'amour. Et c'est pourquoi la guérison physique et le système immunitaire se trouvent ici aussi. Dans la zone du cœur, gouvernée au centre par le thymus. Si nous avons besoin de recoller, de cicatriser, de coudre, de relier, c'est parce qu'il y a eu une division, d'abord. Et cette division-là, c'est vivre, tout simplement. Le monde dans lequel nous vivons, il est très exigeant pour une âme. Une âme qui doit vivre dans ses tréfonds, beaucoup de blessures qui la divisent, parce que la société dans laquelle on vit n'est pas du tout dans l'amour, encore moins dans l'amour inconditionnel, mais même pas dans l'amour. On est dans la compétition, on est dans l'exclusion. On doit faire énormément d'efforts pour justement qu'il y ait un petit peu plus d'inclusion. C'est un effort, c'est l'exclusion qui coûte rien en termes d'efforts et d'énergie à dépenser. Parce que c'est malheureusement quelque chose que l'on voit très fréquemment, c'est presque quelque chose que l'on pourrait qualifier de normalité, de norme. Donc on a simplement par le fait de vivre, d'entrer dans une famille, d'entrer ensuite à l'école, d'entrer dans cette société, d'entrer dans une ville, tous des petits riens, parce qu'à la base, c'est pas grand-chose à chaque fois. On n'a pas des traumas énormes, mais on a des petits traumas répétés, du fait de vivre dans cette société-là, qui fait que bah, ça coupe légèrement, un petit peu, notre âme, ça divise. C'est très exigeant. Et c'est pourquoi l'âme a toujours besoin, elle doit toujours être reliée à l'amour. Sans l'amour, l'âme ne survit pas, elle ne le peut pas. L'amour, c'est son fondement, c'est son essence, c'est l'essence d'une âme. Et c'est pourquoi, alors là, je vais parler d'une expérience qui avait été faite, très ancienne, c'est sous un empereur. Je ne sais même pas si c'était français. Alors j'appelle à ma mémoire, là j'ai pas du tout les sources, mais je me souviens qu'il y a un empereur qui avait tenté de faire une expérience, de voir, oui voilà, il voulait découvrir le langage originel, le langage primitif, et en fait il avait fait en sorte que des enfants, des bébés, soient mis sous la garde de nourrices qui ne leur parlent pas, pour essayer de voir l'émergence. Et en fait, il y a eu un taux de mortalité absolument énorme, parce que sans leur parler, les nourrices leur fournissaient beaucoup, beaucoup moins d'amour, beaucoup moins d'affection. Et ces bébés-là ont fini par mourir du manque d'affection. Donc je ne sais pas si on se rend compte en fait à quel point l'amour est un besoin vital pour un humain. Comme boire, comme manger, surtout, surtout dans ces 7 premières années. C'est vital. Et dans la société dans laquelle on vit, c'est considéré comme quelque chose de ridicule. Une mère, bien entendu, est énormément dépréciée, manque énormément de reconnaissance. Et l'amour encore moins, l'amour maternel encore moins, c'est être tout de suite possessif, avoir des névroses. Et c'est pas juste pour pouvoir répondre à un besoin absolument fondamental, absolument vital, sur lequel une mère se met en connexion. Donc généralement, voilà, il y a plutôt la déconnexion du rôle maternel, parce que la femme a envie de rester dans la reconnaissance de la société plutôt que de reconnaître les besoins vitaux de son enfant, qu'elle ressent de façon primale. Donc voilà, sans amour, l'âme ne peut pas rester dans un corps. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris l'exemple extrême de ces enfants qui sont décédés par manque d'affection. Mais avant d'en arriver là, l'âme ne va pas vouloir rester dans le corps. Elle va faire un pas en arrière, se réfugier dans le monde du mental et rejeter son incarnation, mais tout en restant en vie. Ainsi, on peut voir que toutes les blessures, et je vais le démontrer un petit peu dans ce sens-là, c'est que toutes les blessures, que ce soit abandon, que ce soit trahison, que ce soit jugement, que ce soit humiliation, rejet, toutes ces blessures-là ont leur racine dans le cœur. Dans la blessure du cœur. C'est comme si vous pouviez imaginer que cette blessure a 2 ou même peut-être 3 racines. Une dans le cœur et toujours une du coup ailleurs. Par exemple, la blessure d'abandon, on la situe au niveau du chakra racine. Elle a sa racine dans le chakra racine, mais une deuxième racine dans le cœur. Peu importe la blessure d'âme, elle a toujours un pied, une racine dans le cœur. Pour guérir n'importe laquelle de nos blessures, mais en plus, bien entendu, celle du cœur, pour guérir, retrouver le joyau de l'amour va être absolument indispensable. C'est lui qui fournit la base de l'intégration qui va être la colle de l'amour. Mais c'est aussi lui qui va pouvoir donner l'énergie de guérison, que ce soit du système immunitaire du corps lui-même, ou que ce soit une guérison plutôt intérieure. Donc lui, pour guérir, retrouver le joyau de l'amour, c'est vraiment l'étape la plus indispensable, parce qu'on peut tout à fait retrouver tous les morceaux de nous. On peut passer des années en analyse et voir clairement tous les morceaux de nous et de notre âme. Mais si nous ne savons pas les relier, en fait, ça ne va pas nous servir à grand-chose. On atteint, à un moment donné, on bute et on ne se sent pas mieux. Et en fait, c'est la clé, c'est l'amour qui permet de recoller les morceaux fragmentés de ce que nous sommes. C'est pourquoi l'amour, c'est pourquoi l'humain a toujours eu besoin finalement de la religion, parce que c'est la reliance. Et il en a autant besoin que de l'amour physique. Alors qu'on essaye de les séparer, les deux finalement vont l'un avec l'autre. L'amour est sacré. Donc, comme on l'a vu, l'âme a besoin d'amour, l'âme a besoin de se relier, notamment pour survivre dans ce monde de division, donc de se relier aux autres, mais aussi à plus grand, au sacré. Alors oui, jusqu'ici, nous avons pu voir que le cœur détenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, certains faciles à voir, comme l'amour, et d'autres plus difficiles peut-être à appréhender, comme la notion d'enfant intérieur, même si, comme nous l'avons vu, finalement, tous ces symboles sont liés entre eux. Ainsi, lorsque nous polissons notre blessure pour la transformer en joyau, il nous arrive de quitter la thématique de l'amour, telle qu'on le conçoit un peu superficiellement, pour aller toucher ces différentes facettes. Nous sommes partis dans cette aventure à partir de l'enfant intérieur. Et oui, ce sera bien le cœur que nous soignerons ainsi, ce sera bien cette zone-là d'amour. Soudain, on peut aussi se passionner pour la trinité religieuse. Eh bien oui, c'est encore le cœur que l'on soigne, même si ça a priori n'a rien à voir. Donc, peu importe où votre voyage dans l'exploration de la blessure vous a mené, soyez rassurés, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait valide. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes. Le cœur, c'est vraiment un espace grandiose et son joyau aussi a de nombreuses facettes qui ont toutes besoin d'être polies. Ce qui signifie aussi que c'est une zone qui prendra un peu plus de temps, en fait, à être guérie. Alors, soyez patient, plus que jamais, soyez patient envers cette blessure et envers toutes vos blessures. Ceci étant dit, on va refermer cette parenthèse parce qu'on va chercher ici à apercevoir à quoi ressemble un espace du cœur qui a été guéri, tout à fait cicatrisé, recousu avec de la belle colle dorée ou avec un beau fil doré. Alors, à quoi ressemble le chakra du cœur, ce chakra multiple, une fois qu'il est harmonisé ? Lorsque cet espace du cœur est guéri, les relations avec tous les autres sont en harmonie. Nous avons à la fois la capacité de donner et de recevoir, et cela de façon totalement équilibrée, sans se perdre dans le sacrifice ou à l'opposé, dans une fin d'amour absolument insatiable. Avec un chakra harmonisé, nous avons confiance en la vie, en son abondance et aussi en sa justesse. Nous savons capter les intentions des êtres, leurs qualités, comme une détection qui se fait de façon invisible par la reliance du cœur, une reliance immédiate. Une fois que le cœur est relié des blessures, on le dit ouvert, mais je n'aime pas forcément cette nomination. On pourrait choisir d'autres mots, on pourrait dire qu'il est innocent, qu'il est frais, qu'il est radieux, qu'il est rayonnant, acceptant, gracieux aussi. On pourrait dire qu'il est libre, qu'il est aéré, léger, simple. On pourrait aussi dire qu'il est doux. Cette libération du cœur nécessite, comme nous l'avons vu, ou comme nous allons le voir, une certaine reconnexion au réel. Cette reconnexion-là est très terre-à-terre et pratique, mais elle a aussi son symbole, celui de l'ego face à l'essence de l'âme. On pourrait assimiler ainsi l'artificiel et globalement les constructions humaines à l'ego humain, et la nature sauvage à l'âme, dans toutes ses dimensions de beauté, mais aussi d'ombre, de cruauté, quelque part de danger. C'est pourquoi plonger dans l'âme nous semble parfois si dangereux. La libération du cœur nécessite de courir le risque de la vulnérabilité. C'est donc en d'autres mots, finalement, une transcendance de l'ego qui nous est demandée à ce stade, qu'on me le retrouve aussi, encore une fois, dans bien des traditions. Car pour pouvoir aimer, il faut retrouver l'innocence et dépasser les histoires mentales de l'ego sur une situation, sur une personne, sur des événements. Donc, dépasser les ressentiments, comme on l'a vu, pour renouer avec l'émotion et le partage intime, de cœur à cœur. Le cœur, c'est aussi notre centre. Le centre, comme l'œil du cyclone, où règne la paix face au chaos qui peut être à l'extérieur. Donc on peut le voir ainsi comme un centre de paix intérieure. Il génère dans tout notre système énergétique et nerveux ce sentiment-là de paix qui provient de l'absence de besoins, une fois qu'ils ont été remplis, avec une acceptation enthousiaste de notre place dans le monde, et cette joie rayonnante qui naît de cette harmonie intérieure. C'est parce que cet espace est un espace d'union qu'il donne ce sentiment-là de complétude, de réalisation entre l'esprit et la matière, entre le masculin et le féminin. En fait, cette sensation-là de complétude et d'unité intérieure est ce qui fait naître le sentiment de paix. Lorsque notre cœur, centre, génère cette paix intérieure, nous sommes alors plus enclins à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres, toujours dans cette optique-là d'équilibre et d'harmonie. Car nous nous sentons en sécurité intérieure, tout comme le chakra racine nous amène la sécurité physique, qui est plus extérieure en fait. Donc là, on est vraiment en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est cette sécurité intérieure-là qui va être prolongée dans la sécurité extérieure. Vous voyez encore le lien entre toutes les blessures et le cœur. C'est vraiment le centre racinaire de toutes les blessures. En étant ancré dans ce cœur-centre, donc ancré et équilibré, l'harmonie corps et conscience est créée. Et elle se traduit par un sentiment d'appartenance à l'humanité, et un équilibre entre donner et recevoir, que j'ai déjà évoqué, mais qui est vraiment central aussi dans la bonne santé des relations avec les autres. Alors, oui, parfois, la poussée exaltante d'un amour nouveau peut nous faire perdre nos bases et nos fondations. Ça nous emmène comme ça, comme un coup de vent. Et c'est encore une autre raison pour laquelle cette blessure apparaît après le chemin rouge dans le labyrinthe, donc après l'enracinement, et aussi après la mise en place du trône intérieur. On pourrait se dire que, puisque le centre est finalement le centre de toutes les racines, nous aurions à parcourir cette blessure-là avant les autres. Et pourtant, non, elle n'intervient qu'en quatrième chemin. Avant d'atteindre le centre, le saint des saints, nous devons obtenir d'abord un ancrage fort. Le cœur est donc relié aussi à nos racines et à notre physicalité, à notre corps. C'est une zone d'interface, en fait, finalement, quand on le regarde, entre le spirituel et le matériel. Les poumons aussi correspondent à ce genre d'interface. Et c'est d'ailleurs aussi une zone concernée par l'énergie du cœur. L'esprit qui souhaite entrer dans le corps passe par cette respiration, comme le pensent les hindous, notamment, ou les gnostiques. Leur technique de respiration, aux hindous, qui est appelée pranayama, vise à purifier l'organisme et à accéder à un élargissement de la zone du cœur. Donc à la fois travail sur le thymus et travail sur l'énergie du cœur. C'est finalement la connexion spirituelle, la grâce spirituelle par la respiration. Et la grâce, nous l'avons vu, est reliée à la vitalité et à la santé. On peut voir la grâce comme une danse entre une expression de l'impulsion de vie innocente dans le corps, quelque chose, une impulsion de primordiale hein, de la part de notre enfant intérieur, qui danse justement avec une conscience élevée. Donc un mariage entre l'inconscience et la conscience, ou ça, dans le corps. C'est une autre façon de voir l'équilibre de l'interface matière-spirituelle finalement. En entrant dans cette grâce, le cœur devient un centre capable de voir le sacré partout sur Terre, partout dans le matériel. Ce sacré qui nous donne l'envie de soigner et de protéger. Souvent notre esprit, il est en guerre contre notre monde, parce qu'on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on le voudrait, ce monde-là, très différent. On fait des changements, on le veut plus beau, on le veut avec plus de vitalité ou avec plus de cohérence dans le fait qu'il nous apporte des réponses à nos besoins. Mais lorsque notre centre-cœur est équilibré, que le mariage entre le corps matériel des besoins et l'esprit d'un autre côté a lieu, quand ce mariage a lieu, peu importe, on vit toujours dans le même monde, mais ça nous apporte la complétude et la paix. Comme je l'ai déjà dit, mais aussi un nouveau point de vue sur notre monde et la matière. Soudain, on sait que tout est parfait, même dans l'imparfait. Que notre monde est parfait dans ses aspects parfois atrocement négatifs. Parce que un cœur justement équilibré, harmonisé, joyeux, innocent, frais, libre, nous permet de voir au-delà. Parce que le cœur, c'est le son de la vie, son rythme est la vie. Les cellules du cœur résonnent toutes avec le rythme de la pulsation. Elles sont en résonance avec le rythme intérieur de notre organisme, du corps et donc de la matière, cette interface encore. Et le cœur sait que la vie est un changement constant, que tout se divise, puis que tout se relie, que tout s'abîme et que tout se guérit. C'est cela aussi le rythme de la vie. Sur cette réflexion, je vais terminer là cette première partie. Je vous invite à prendre peut-être une pause et ensuite à me rejoindre dans la seconde partie que vous trouverez dans la bio, juste en dessous. Voilà, à tout de suite. Prenez bien soin de vous.